Music du Monde, Laurence Alloa, Tegui Nfatroré. Music du Monde sur RFI.
Mon nom offensé. Mon prénom humilié. Mon état révolté.
La dame qui se dit offensée, humiliée, révoltée s'appelle Dane Belany. C'est l'une des figures de l'album intitulé « Par les damnés de la terre », un projet que le slammer Rossé caresse depuis presque 10 ans, avec des gants de boxe, parce qu'il y a des titres qui sont des coups droits qu'on ramasse en pleine poire. « Par les damnés de la terre » se propose de vous faire réfléchir sur notre histoire. Premier de cordée, Alfred Panou, « Je suis un sauvage » avec l'Art Ensemble of Chicago. Nous sommes en 1970.
Sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Je ne veux pas monter.
On a commencé très fort aussi avec l'Art Ensemble of Chicago et Alfred Panou. C'était en 70, Je suis un sauvage. C'est un des 24 titres de cette compilation qui s'appelle Parler d'ADN de la Terre, qui rappelle évidemment l'œuvre de Frantz Fanon. Ce sont les voix de lutte que vous avez retrouvées entre les périodes 1969 et 1988. On va d'abord parler de Panou parce qu'on vient de l'écouter et après on parle de la compilation. Alors, Sans Vie Alfred Panou est né en 45 à Lomé, au Togo, d'autres un peu bourguignon sur les bords. Avec cette chanson Je suis en sauvage, qui est quand même très, très fort, hein, il fustige ce que l'on pourrait qualifier d'imaginaire raciste et colonial dans lequel tous les Africains sont enfermés, dont ouais. Vous, Rochet, ouais. Un petit peu. Ouais. Comment avez-vous rencontré Alfred Panou intellectuellement et musicalement?
Alors, j'ai un ami disquaire, Aurélien, qui travaille au Puce de Saint-Ouen, qui me fait écouter ce morceau. Et c'est de là que tout est parti, avec ce morceau-là et un morceau aussi de Colette Mani. Et en fait, on se prend une tarte, hein, parce qu'on se dit, c'est du slam, c'est du rap, c'est tout ça, c'est aussi plein d'autres choses. C'est les États-Unis qui retrouvent l'Afrique. Forcément, ça nous fait aussi penser au Last Poet, à Gilles Scott Heron. Et on se dit, si ça existe, il doit y en avoir d'autres qui existent. Et donc, il faut les trouver, il faut en trouver d'autres pour faire un projet. C'est de là que ça part.
Et ça fait 10 ans que vous êtes sur cette idée.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et elle s'est concrétisée de plus en plus. Lui, pas nous, donc je le cherche. Je le cherche pendant quelques années. Et en fait, je me rends compte, plus je le cherche, plus je me rends compte que sa vie est impressionnante, en fait. Parce que c'est lui aussi qui a monté le cinéma Image d'ailleurs, le cinéma qui est dans le 5e arrondissement, qui est un cinéma, en fait, où il y a beaucoup de films des diasporas. C'est quelqu'un, en fait, qui est très intéressant parce qu'il s'intéresse à énormément de choses. Il est acteur, il est producteur, il est musicien.
Il a joué dans un film de Godard. Mais le nom m'échappe.
Ouais,
il a monté
aussi.
Des spectacles
monté
avec des
spectacles.
Textes d'Angela Davis, des Black Panthers. Il a aussi fait des œuvres qui combattent, qui parlaient de l'apartheid en Afrique
c'est
du
ça,
Sud.
C'est
donc
ça.
Très militant.
Il est très militant et puis il a sa vie donc comme ça en France. Et puis il a aussi une autre vie au Bénin où il monte aussi des festivals là-bas. Il est entre la France et le Bénin. Donc voilà, c'est un personnage très intéressant et du coup j'ai cette chance de le rencontrer donc en 2004 et on était resté en contact et ensuite je l'ai perdu et du coup j'ai mis énormément de temps à le retrouver pour lui parler de ce projet dans lequel je voulais insérer son morceau.
Il a dit oui.
Il a dit oui, et puis même, on parlait de mettre un inédit, ça s'est pas fait, parce que tout était compliqué de façon sur ce projet, tout était très long à faire, donc on n'a pas mis l'inédit, mais en tout cas, voilà, on y a pensé.
Sur cet album, cette compilation, j'allais dire hors sol, mais pas dans le bon sens du terme, cet album est émaillé de quelques discours politiques. Ici, on retrouve Jean-Marie Djibaou pour la Nouvelle-Calédonie.
Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
Jean-Marie Djibaou, Nouvelle-Calédonie, il a été assassiné en 89, c'est un nationaliste kanak. Quand vous composez cet album, quand je dis composer, c'est le mettre en place, l'articuler, faire le squelette. Vous travaillez avec deux historiens parce que vous ne pouvez pas partir dans cette aventure sans base solide.
Ouais.
Parce que ce n'est pas un album de compil classique, c'est un album de chants de lutte. Donc il y a deux historiens, il y a Naïma Yahi et Hamzat Boukhari Yabara. Naïma est plutôt spécialiste dans le Maghreb. Hamzat Boukhari Yabara, lui, son truc, c'est le panafricanisme.
Oui.
Vous les connaissez depuis longtemps ?
Quelques années. Je les connaissais déjà. Et en fait, au début, je me basais seulement sur l'esthétique musicale. Je ne rentrais pas dans l'histoire ni dans la politique. Après, moi, j'aime le beau et j'ai ma définition du beau en tant que rappeur engagé qui est, j'aime pas quand c'est tiède, j'aime pas quand c'est lâche et j'aime bien quand ça dit des choses. Donc forcément, le beau, je le vois aussi dans l'engagement, mais c'est parce que je trouve ça beau. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc je voulais mettre des morceaux parce qu'ils sont beaux. Qu'ils soient engagés, c'est un plus. Et donc le truc, c'est que je pars comme ça et du coup, je me rends compte qu'il y a des morceaux qui sont tellement lourds de sens que j'ai peur de passer à côté de quelque chose, qu'il y ait des choses que je ne comprenne pas. Et c'est pour ça que je me sentais beaucoup plus rassuré d'avoir ces deux personnages qui pouvaient m'entourer, parce que ça disait aussi d'autres choses du projet. Et le fait de collaborer avec eux sur un projet comme ça, c'était à l'heure où il y a beaucoup de choses dans la musique où on invisibilise les personnes, on invisibilise leur lutte pour mettre juste, faire dépasser juste comme ça leur style musical, c'était aussi une manière de partir dans le sens inverse de ça.
Il y a 24 pistes, hein, donc quelques discours politiques et puis des musiques de lutte. Est-ce que vous avez modifié quelques morceaux? Vous avez apporté votre touche personnelle ou sont les morceaux d'origine?
Ça fait vraiment partie du cahier des charges. Si on commence à modifier, on part dans quelque chose où ça devient un casse-tête, il n'y a plus de fin. Un autre morceau, on voudra mettre une batterie, un autre morceau, on voudra changer la fin. Donc, il fallait vraiment laisser les choses telles quelles parce que c'est aussi des moments d'histoire. Il faut rester fidèle à ce que l'histoire a été.
Rosset, cette compilation fait certainement écho à votre vie. Je rappelle très brièvement que votre papa faisait des faux passeports hein, pendant la dernière guerre mondiale. Alors je ne sais pas si ça vous a totalement articulé pour être qui vous êtes aujourd'hui. Mais quand vous choisissez Slimane Azem et Cher Nourdine dans votre compilation, ce n'est pas tout à fait un accident. C'est les Habil Kabil qui sont de retour. Hein.
Oui, je pense que c'est indirectement, effectivement. Je pense que voilà, quand mes parents énormément portés, ont été actifs dans les luttes décoloniales. Et je pense que du coup, je ne sais pas moi à quel point ça joue sur mon parcours personnel, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours des parallèles qui reviennent. Et du coup, je me dis, j'ai pas fait ce projet en tout cas en pensant à ça, c'est sûr, mais forcément, il y a un reflet. Quoi.
Bah alors, quand vous faites ce projet, vous pensez à quoi exactement?
Je pense à un manque que j'ai, à un besoin de retrouver dans la langue française des tripes de l'action du moment. Et on l'a dans le rap, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de styles musicaux qui ont déserté la langue française et qui ont déserté aussi la cadence du moment, la cadence de leur instant présent, qui ont déserté le fait de donner un avis, de donner une idée. Et c'est ça que je voulais trouver, vu que je la trouve pas dans le présent, je suis allé chercher dans le passé.
Vous dites que le présent se débrouille mieux lorsqu'il a de la mémoire.
Oui, ça c'est parce que en fait on a tendance à répéter les mêmes erreurs.
On bégaye.
Et c'est vrai que moi je fais partie de cette génération où je suis dans un entre-deux parce que j'ai 40 ans, donc je suis un rappeur, donc je fais partie des jeunes, et en même temps je suis père de famille, donc je fais partie de ces gens qui ont envie de donner de la bienveillance et qui ont envie d'être dans la transmission. Et en fait, quand on n'a pas les outils, qu'on ne nous montre pas de projet de société à transmettre, ben, en fait on se rend compte vite que c'est à nous d'aller chercher ça.
Alors le titre que vous avez choisi de Slimane Azem et de Cher Nourdine pour votre compilation Parler d'années de la Terre, c'est le titre La carte de résidence. Moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Carte de séjour à Rachid Tara.
Ouais, bah bien sûr.
Ouais. Et Slimane Azem, c'est aussi le monde kabyle, donc les berbères d'Algérie. Qu'avez-vous en commun avec eux?
Eh ben, fait d'être berbère, hein, parce que ben voilà, je suis berbère. Ma mère voilà vient de Adrar, a grandi à Blida. Moi, je suis né à Bab-el-Oued et j'ai grandi à Blida aussi. Et donc voilà, on n'a pas la même sociologie que Slimane Azem, etc. Parce que moi, je suis arrivé en France en 81, mais en tout cas, oui, ce sont les mêmes origines, c'est sûr.
De la résidence. Khasaruh kan henni manish, yella wagrum zid murtish, aflu murad temsertish, kulla sudele conférence. Kulla sudele conférence, pour étudier tous les sens. Prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Angah lal khodem aywar, di migrit tqabel, yer nas soum arxisen, oqar nas tiyad la chance, oqar nas tiyad la chance, mit sa'ad la résidence. Le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Ash'hala yadi nous
صبر في تمر ثازي تنم الامر ما يليل سمع الصافر اغزر لدي في روس اغزر لدي في روس ما يلولش للريزيدونس Travaille comme il est dur, si pour l'immigrer bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نخدم شي طوح في جنازه نم الروح ما يليل سما غن روحي الفوسي بير لي كونسيكونس Il faut subir les conséquences, il n'y aura plus de réminence. Après tout, ça me fera du bien de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. روح ظلنا يطيج ديم كل ثامور زيت فجيج ربي ذحنني يتفرج يضمنا غنعيش دافونس يضمنا غنعيش دافونس جيسكا لا فان ديكزيستونس سيت افيك ان غروند جوا كو جو في روندري شي موا سي نورمال شاكان شي سوا سوفونير دو نوتر انفونس Souvenir de notre enfance avec toutes ses références. Tu sais bien que la terre est ronde, le soleil est pour tout le monde. Il brille à travers les ondes grâce à la providence. Grâce à la providence qui domine toutes les puissances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence.
Il est des nuits sans nom, il est des nuits sans lune où jusqu'à l'asphyxie moite me prend l'âcre odeur de sang jaillissant de toute trompette bouchée. Des nuits sans nom, des nuits sans lune, la peine qui m'habite m'oppresse. La peine qui m'habite m'étouffe. Nuit sans nom, nuit sans lune où j'aurais voulu pouvoir ne plus douter, tant m'obsède d'écœurement un besoin d'évasion. Sans nom, sans lune, sans lune, sans nom, nuit sans lune, sans nom, où le dégoût s'ancre en moi aussi profondément qu'un beau poignard malais.
S'il y en a un qui est hyper légitime dans le fait d'avoir cofondé le mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, c'est bien Léon Gontran Damas. Lui, c'est carton plein. Il est blanc, amérindien et noir. Pour dire que, voilà, votre album parle des années de la Terre, il y a des textes importants, des textes fondateurs. Léon Gontran Damas, je peux le présenter, mais enfin, je préfère vous laisser vous exprimer sur le personnage qui vient de Guyane. Hein. Je rappelle que parler d'années de la Terre, c'est toutes les anciennes colonies françaises et les Français, donc les Dom-Tom, l'Afrique, qui s'expriment depuis la fin des années 60 dans votre disque.
Ouais, et Léon Gontran Damas, moi, je ne sais plus comment je l'ai... Ah ben, je l'ai découvert avec ce morceau-là qu'on a entendu, le projet où il y a ce morceau-là.
Il est dénué.
Voilà, et je le connaissais pas. Et j'ai été très en colère quand j'ai compris qu'il faisait partie en fait, de ce trio-là. parce que on dirait qu'il a été caché, quoi. Je me suis dit, comment ça se fait que pourquoi personne m'en a parlé de lui, pourquoi on me l'a caché. Et en fait, voilà, effectivement, donc il fait partie des poètes de la négritude avec Césaire et Senghor. Et c'est lui, c'est peut-être celui sur lequel j'ai le plus d'accroche, parce que je le trouve très franc, très direct et très évident, en fait, voilà, dans ses textes, dans ses poèmes. Il est très musical aussi. Il était un passionné de jazz. Et il a le jazz, en fait, je trouve, dans son vocable, dans son écriture. Et donc voilà, Léon Contrandamas, fallait que je le mette, du coup je l'ai mis deux fois.
Oui, j'ai vu. Sur cet album, donc Par les damnés de la terre, vous nous faites faire le tour de monde de la colonisation, enfin version française. Donc évidemment, on part au Gabon, au Cameroun, on est au Burkina, on va aussi en Asie. La guerre du Vietnam, ça fait des petits partout. En France, on a eu Colette Magny qui a fait un album qui s'appelait Saigon 67. Et ouais. Colette Magny n'est pas restée très longtemps sur Terre, une cinquantaine d'années. Elle est morte en 97. On la connaît un peu dans les années 60 parce qu'elle a fait un tube, ouais, un morceau ouais. qui a été un peu écouté qui s'appelait Mélocotone. Mais c'est pas cette Colette Magny là qui vous intéresse, c'est la militante.
Voilà.
Colette Magny, vous la...
Et alors Colette Magny, justement, je trouve que sa carrière est très intéressante parce que elle est arrivée avec Mélocotone, qui est un morceau chanté, un morceau assez doux. Et voilà, les gens en fait aiment bien faire une gueule. Aiment bien caricaturer. Tout de suite, ils ont dit, ah non, mais bon, voilà, c'est une dame qui est assez forte et qui chante avec une voix très soul. Donc voilà, ils ont commencé à la surnommer la Fitzgerald française, etc. Elle, ça l'a gênée. Elle se sentait mal à l'aise avec ça. Comme si tout d'un coup, elle allait devoir remplacer en France et trouver une légitimité pour être la jazzman en France et tout. Donc elle a dit, non, mais c'est bon, de toute façon, les maisons de disques vous saoulez. Et je le dis texto, elle leur a dit comme ça, vous, les maisons de disques, vous êtes des porcs. Et donc elle dit, moi, vous n'aurez pas ma voix. Et donc elle s'est mise à clamer ses textes au lieu de les chanter. Et elle est allée, en fait, elle allait voir les usines qui étaient en grève et elle chantait pour eux et elle chantait les usines. Et elle chantait les grèves dans les usines.
Quand vous parlez de Colette Magny, j'ai l'impression que vous parlez de la grand-mère des gens qui font du spoken word. Est-ce que ce serait notre last poète à nous?
Ouais, elle en fait partie. Je pense qu'il y en a eu pas mal et je pense qu'elle aussi, elle en fait partie à travers son courage, son parcours et aussi le fait qu'elle chantait, la rue, elle chantait les classes ouvrières, elle chantait les guerres, elle chantait tout ça. Et comme je disais au début, voilà, c'est le l'art aussi, c'est le reflet de la vie et du temps présent et c'est ça qui est intéressant avec ces artistes-là.
Colette Magny.
Le bain, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodiaveta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci, Paul Roulinck, Trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur quatre toute l'année, à la Rodiaveta. Merci, Paul Roulinck, de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon, Vaise, gorge de loup, belle étoile Saint-Fond, péage de Roussillon. Mais derrière les hauts murs de la Rodiaveta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron.
feu continu à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent.
Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit?
Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer? Nous ne sommes pas des équipes de football.
Alors ça, ce sont des moments uniques aussi. Là, c'était la voix d'Ho Chi Minh qui reprend la journaliste, comment ça arbitrer, mais on n'est pas une équipe de foot. C'était en 64 au Vietnam. J'ai collé cet extrait à Colette Mani parce qu'elle était très intéressée, très engagée par rapport à la guerre du Vietnam. Elle avait notamment appelé un de ses albums Vietnam 67. C'est avec les deux historiens, vous avez fait le choix des discours qui illustrent aussi cet album, parler d'Adèle Blatter.
Alors, c'est pas avec les historiens que je l'ai fait, mais par contre, ils m'ont quand même servi de garde-fou pour voir si des fois je faisais pas n'importe quoi. Et ça va, j'ai pas trop fait n'importe quoi. Dire que moi, voilà, je suis pas historien, j'ai pas spécialement de bonnes bases en plus en histoire. Et en fait, ce qui est intéressant avec un projet comme ça, c'est que au final, la musique dit les choses. Dire que le sillon du disque vinyle a fossilisé les choses. Donc, au final, eux, quand ils regardaient le truc, ils disaient oui, c'est ça. C'est ça, et donc du coup après ils pouvaient eux le développer, sauf que moi je suis incapable de faire. Mais moi partir sur Ho Chi Minh, faut savoir qu'avant ce projet je savais pas qui était Ho Chi Minh. Alors, je connaissais le nom comme tout le monde quoi, mais j'en savais pas plus, ou je savais ce qu'on m'avait dit. Le sillon du disque en fait dit beaucoup plus et donne cette verve. Moi je savais pas qu'il parlait français Ho Chi Minh, je savais pas que dans toutes ces régions du monde on pouvait parler français. Donc en fait c'est tout ça que dit le sillon du disque, dit la verve des gens, dit en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que on parle pas des gens, c'est eux qui parlent eux-mêmes. Et c'est là où ça porte un poids qui est complètement différent, un projet comme ça.
Alors, 10 ans que vous mûrissez ce projet, vous avez calculé que c'était 3 ans de travail accumulé. Colette Mani, je comprends. Il y a des anecdotes, forcément, dans cette aventure. Vous avez retrouvé un hommage à Mohamed Maïga, qui est le papa d'Issa Maïga. Racontez-nous cette histoire.
Ouais, donc, bon, je cherche des pays différents. Donc, je cherche le Burkina Faso. Et je suis assez admirateur de ce qu'a été Thomas Sankara. Et donc du coup je regarde pas mal de documentaires et là dans un des documentaires en fait il fait un discours, il est sur un podium et après son discours il y a un groupe de musique qui joue et il joue en français. Donc moi je suis monomaniaque, je suis déjà dans mon projet et je me dis ah c'est en français, il va falloir que je trouve qui c'est un groupe de femmes. Et dans le générique il y a marqué les colombes de la révolution, mais je sais pas qui sont les colombes de la révolution et à l'époque il y a rien sur elles en fait sur internet, sauf sur un blog où ils disent que c'est un groupe qui a été créé par le musicien Abdoulaye Cissé, qui était un ami très proche de Sankara, prof de guitare et tout. Et donc, il est encore en vie, je le contacte et je lui demande s'il y a des bandes qui existent. Il me dit, s'ils ont sorti un truc, il me dit, on n'a rien sorti. Mais effectivement, on avait enregistré à l'époque, à la radio du Burkina, il y a peut-être des bandes qui existent. Donc, il y va, effectivement, elles existent. On a demandé l'autorisation donc, à la radio du Burkina, ils ont accepté et on écoute. Et là, en fait, dans les morceaux, il y en a un qui est très beau, un morceau assez soul blues, qui s'appelle Hommage à Mohamed Maïga. Et je veux mettre celui-là, mais je ne sais pas qui est Mohamed Maïga. Et donc, je me renseigne avec Hamzat Boukhari, donc l'historien qui fait partie du projet. Et c'est un journaliste, en fait, qui était très proche de Sankara, qui s'est fait assassiner 2 ans avant que Sankara se fasse assassiner. Et du coup, on décide de mettre le morceau. Et là, c'est au moment où, en fait, Aïssa Maïga sort ce fabuleux livre « Noir n'est pas mon métier ». Et donc du coup je m'intéresse aussi à ce qu'elle fait, je me rends compte que son père était journaliste, qu'il s'est fait assassiner quand elle avait 6 ans. Donc forcément je fais le lien et donc je lui ai envoyé le morceau et Jean Boulet. Et puis ce qui est très touchant c'est quand elle me dit qu'enfin elle peut faire écouter une histoire du pan de son père à ses enfants, donc qu'ils puissent avoir des outils pour comprendre qui était leur grand-père. Et c'est là en fait où on se rend compte à quel point nos histoires au pluriel, qu'elles soient les histoires des colonisés, des ouvriers, de ceux qui sont censés chuchoter dans cette société, ceux qui n'ont pas d'histoire, à quel point c'est important qu'il faut qu'ils en aient une et à quel point En fait, on nous la montre pas et c'est à nous d'aller gratter pour la trouver. Quoi.
Mais cette compilation, c'est presque une université pour les deuxième, troisième génération de migrants en France. Vous en faites partie.
Ouais, il y a de ça. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui donne de l'espoir parce que, en fait, ça parle d'une époque des fraternités. Ça parle de l'époque des fraternités à un moment aujourd'hui où on n'est que dans les dystopies, que dans les moments de fin du monde où on fait que de parler de après il n'y aura plus rien, après il n'y aura plus rien.
On est entre les problèmes de fin de mois et les problèmes de fin du monde. C'est quand même le grand écart.
C'est ça. Et donc un projet comme ça, c'est un projet qui montre plein de fraternités possibles et plein d'espoirs possibles à une époque qui était quand même très difficile aussi. Et ça fait du bien.
Je vous propose d'écouter Eugène Mona. Eugène Mona, pourquoi vous l'avez mis dans cette compilation ?
Eh ben parce que c'est une grande figure de la musique martiniquaise et parce qu'il avait un très beau morceau aussi. C'est pas rien. Donc voilà, il fallait le mettre.
Pitié.
L'esclave pleure et maudit sa chaîne. Il voit comme dans un mirage son ciel et sa forêt lointaine. Chante pour calmer sa peine, sa vieille chanson africaine. Oh, 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 guerrier. Exauce la prière de mon cœur, soutiens mon cœur brisé par la souffrance, mais pas dont le fouet marque la cadence. Je chante et ma chanson plaintive s'exhale de ma pauvre âme captive. Oh, 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 oh guerrier. Oh,
victime d'une publicité qui, en île Maurice, disait qu'il y a beaucoup de travail en France. On est venu en France. Au lieu de trouver ce travail, c'est plutôt des flics qu'on a trouvé.
Et voilà, donc c'est des ouvriers mauriciens qui se plaignent de la matraque et qui cherchent plutôt du travail que la confrontation avec les forces de police. C'était en
75.
En 75, bravo l'artiste, Rossé. Sur tous ces artistes qui sont sur votre compilation Parler d'années de la Terre, il y a beaucoup de gens qui sont partis transfigurés, qui sont morts. Et puis il y a des vivants. Il y en a notamment cette dame, Dane Bellamy, qui, alors elle aussi, elle a un peu carton plein, les Turcs, ouais. Les Sénégalaises et les Noirs. Elle a chanté dans les cabarets à Pigalle, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Et puis après, elle est partie à New York, changer de crèmerie.
Exactement. Donc, effectivement, un peu comme Alfred Panou, en fait, elle a une vie très riche, mais la plupart ont des vies assez intéressantes. Et donc, elle, voilà, elle a une formation de danseuse classique. Puis, elle surprend comme ça donc une discussion de ses professeurs. Elle n'a même pas 18 ans. Elle surprend une conversation où ils disent que elle sait très bien ce qu'elle fait, mais qu'elle pourra jamais, réussir dans la danse classique.
Être danseuse étoile parce qu'elle est noire ?
Ouais, parce qu'elle est noire.
D'accord.
Bon, elle s'effondre. quoi. Et puis bon bah voilà, elle va chanter dans les cabarets, elle a comme ça une carrière artistique assez aventurière. Et puis elle fait aussi du théâtre et elle joue dans une pièce à Avignon. Et là il y a un Black Panthers qui est là, qui la voit, et quand elle descend de scène, il va la voir et lui dit c'est super ce que tu fais, mais tiens, et il lui sort un peigne. Et lui dit tu devrais te coiffer avec une coupe afro parce que assume qui tu es, etc. Voilà, il lui sort tout un discours. Et elle, elle prend ce discours-là, mais plus que ça, elle a envie d'aller aux États-Unis. Et quand elle arrive aux États-Unis, elle se sent libre et elle a envie de chanter, elle a envie de faire plein de choses. Et elle côtoie un peu tout un mouvement, toute une époque où elle est aux côtés de James Baldwin, de Miles Davis, de Thelonious Monk. Et elle est très proche de Ornette Coleman. Et en fait, c'est là qu'elle sort donc ce disque-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle perd sa voix parce qu'elle est malade. Et du coup, elle peut plus chanter. Donc elle est dans une grosse dépression. Et Ornette Coleman lui dit non, t'inquiète pas, tu vas faire un disque, mais tu vas clamer les textes. Et ce qui serait intéressant, c'est que tu les clames en français, parce que en fait, il faut pas perdre ce truc-là, en fait, de tous ces poètes, de Frantz Fanon, de Aimé Césaire, etc. Il faut que, c'est important pour nous qu'on ait ça ici aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'elle fait ce disque.
Dédicacé à Frantz Fanon. Alors Frantz, ouais. Fanon, qui est important, qui transpire dans tout cet album, puisque le titre de la compilation Parler d'années de la Terre fait évidemment référence aux années de la Terre, qui était le dernier livre de Frantz Fanon, qui était publié en 61. Ce livre, je vous demande si vous l'avez lu ou pas.
Ouais, bien sûr. Bien, voilà. Sûr, c'est un livre très, très important.
Et comment vous l'expliqueriez à un enfant de 6 ans, voire 7, ou à vos enfants, à vous qui sont petits ?
Eh bien, je dirais que en fait, c'est un livre qui parle en fait, que notre société, en fait, elle est faite de hiérarchie, et que dans cette hiérarchie, il y a des gens qu'on n'entend pas. Parce que leurs histoires, en fait, il n'y a pas le moyen de l'écrire et de la diffuser. Et que Frantz Fanon, il s'est intéressé à ces histoires-là. Et en fait, c'est ces histoires-là dont il a voulu parler dans ce livre-là qui s'appelle Les damnés de la Terre.
Qui était préfacé par Jean-Paul Sartre,
ouais.
De mémoire.
Ouais.
On va terminer cet entretien avec le titre Les Vautours d'Abdoulaye Cissé. Alors là, on part au Burkina Faso, c'est l'époque Sankara. Vous avez déjà évoqué Abdoulaye Cissé dans cette conversation, puisqu'à un moment il en était question. Abdoulaye Cissé, lui, il est de Koudougou, donc ça a 2-3 heures de voiture.
Bah là, il est à Ouagadougou.
De Ouaga, oui. C'est parti des gens qui sont vifs, hein, que vous avez rencontrés.
C'est ça,
alors racontez-moi votre rencontre avec ce monsieur qui chantait quand même du Dalida quand il était jeune.
Il était yéyé, mais ce qui est marrant, c'est que c'est avec des inspirations qui viennent de partout, même de Cuba. Parce que c'est ça qui est intéressant en réalité, voilà, à Ouagadougou, c'est que dans cette époque tiers-mondiste, c'est que les choses viennent de partout et que les inspirations viennent de partout. Donc Abdoulaye Cissé, lui, en gros, lui fait un mail d'abord et il me répond, je finis par l'appeler. Voilà, je lui parle en fait de tout ça. Je ne suis pas le premier à lui faire ses demandes, hein, parce qu'il y a eu un réalisateur belge qui est très intéressant, comme ça j'ai plus le nom en tête, mais qui a fait un documentaire en fait sur Sankara, où il parle un peu brièvement des colons de la Révolution, et qui a d'autres projets, et qui connaît déjà en fait toute cette histoire-là, et qui m'aide un peu par rapport à ça, du coup, avec la rencontre avec Abdoulaye Cissé. Et Abdoulaye Cissé, quand il a les bandes en main, moi je lui prends un aller-retour Paris. Mais il vient, il a un fils qui vit à Paris, bon, il fait déjà quelques allers-retours de temps en temps. Et là, on se rencontre, on en parle. Moi, j'invite Hamzat Boukhari Abara, l'historien, à venir avec moi parce que la rencontre va être intéressante en réalité, et elle l'est. Et puis on reste en contact, on l'est toujours avec Abdoulaye Cissé, parce que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que vu que moi aussi je fais de la musique, en réalité on parle de toute cette histoire qui est très lourde de sens, mais on parle aussi de musique en fait. Et ça, bon ben, c'est pareil, c'est des discussions qui durent, qui n'ont pas de fin, et donc on continue à en parler aujourd'hui avec que ce soit Dan Bellany, Abdoulaye Cissé ou Alfred Panou. C'est un tonton quoi, Abdoulaye Cissé.
Et il a connu Sankara, puis il a quel âge aujourd'hui maintenant?
Je sais pas quel âge il a. À peu près, je pense, il doit avoir 70.
Au moins, parce que c'est une histoire dans les années 70, c'est minimum. Et donc Sankara lui avait demandé de créer deux groupes, les colombes de la Révolution que vous évoquiez tout à l'heure, et les chanteurs au point levé.
Et les petits chanteurs au point levé. Et donc il a créé ces deux groupes. Il y en a qui font encore de la musique, j'ai pas les noms, mais il y en a qui sont encore artistes aujourd'hui, qui font encore de la musique dans ces deux groupes-là.
Et il est proche, à votre avis, des gens du ballet citoyen?
C'est possible, je sais pas. Je vais pas demander.
Si les petits-enfants, j'allais dire révolutionnaires, connaissaient leur tonton, etc.
Ouais, forcément, bien sûr.
Oui, bien sûr. Est-ce que tous ces gens-là, que vous avez rencontré pour la fabrication, parce qu'on va parler de fabrication et d'artisanat de cette compilation hors du commun. Est-ce que vous allez faire des projets ensemble, je sais pas, avec Dan Bellani, avec Abdoulaye, Cissé ou je sais pas.
Des fois, on l'évoque. On l'a beaucoup évoqué avec Alfred Panou parce que c'est quelqu'un qui fait encore de la musique, hein, qui écrit. Lui, c'est quelqu'un qui de toute façon n'a jamais arrêté d'écrire. Abdoulaye Cissé, c'est quelqu'un qui fait encore de la musique, toujours, qui se produit pas mal au Burkina. Donc après, on a des discussions des fois comme ça, effectivement, comment lui pourrait se produire en France. Il y a une vraie richesse, enfin, les gens des fois se rendent pas compte de l'opportunité que ça pourrait être, en fait, de produire ces gens-là. Après, bon, ils se produisent, ils ont peut-être aussi des fois pas besoin, hein, ils se produisent très bien voilà, au Burkina, au Bénin, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai truc, j'espère que peut-être ce projet peut mettre la lumière sur tout ça aussi. Quoi.
Quel est le bonhomme ou la bonne femme qui vous a le plus étonné dans cette aventure?
Alors c'est compliqué, toutes ces histoires-là sont tellement pleines de choses que je ne peux pas hiérarchiser en fait.
D'accord.
Je ne peux pas hiérarchiser parce que on va passer de Colette Mani à même Groupement Culturel Renault, où là on est chez Pierre Graziani, à Abdoulaye Cissé, Alfred Panou et tout. En fait, je pourrais parler 3 heures de chacun en expliquant vraiment toute la vie qu'ils ont pu avoir. Et en fait, c'est à chaque fois des angles qui sont très intéressants. Donc c'est très difficile de hiérarchiser.
Vous avez pensé à faire des images, à faire un film, un documentaire autour de ce projet, partir sur d'autres pistes?
Oui, j'ai cette idée en fait. Qui est dans la tête. J'avais commencé avec un ami et on a arrêté parce qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord que le projet musical vive et réfléchir à ça dans un second temps.
Rosset, merci d'être passé dans ce studio, nous présenter vos damnés de la terre à vous, qui sont en fait vos tontons, vos grands-oncles, vos tatas, et qui donneront peut-être à manger intellectuellement aux petits, aux
J'espère.
Petits qui peuvent avoir 5 ans ou 50 ans.
C'est hein. Ça, exactement, exactement.
On se quitte avec Abdoulaye Cissé pour le Burkina Faso avec le titre Les Vautours. Vous êtes déjà allé à Ouaga, vous?
Non.
N'y fasse pas con, rien du tout.
Non, mais bientôt.
Parce que les vautours, il y en a. Et ouais. En général, ils arrivent sur le toit des maisons, ils font péter des tuiles, on n'arrive pas à dormir.
Ok.
Ah, on connaît un peu.
D'accord.
Tout petit peu.
Yes.
Merci, Rosset. À bientôt.
C'est moi. À bientôt.
Depuis ce jour, les hommes se sont battus. Oui, Excusez-moi de vous déranger, l'émission n'est pas tout à fait finie. Alors il y a Rossé qui me fait dire de vous dire qu'on vous offre un petit dernier pour la route. Alors on a choisi Joby Bernabé avec le titre La logique du pourrissement. C'est bien pour finir l'émission, logique, pourrissement. Ce fervent lecteur d'Aimé Césaire est né en Martinique, je parle de Joby Bernabé. Il a vécu 2 ans en Afrique et il a pu constater, dixit le livret, à quel point la différence entre Africains et Antillais était le résultat d'une aliénation. La logique du pourrissement fait penser bien sûr à la condition des anciennes colonies de la Caraïbe, de l'océan Indien et du Pacifique. Joby Bernabé écrit ce texte en 1985. Au revoir.
La logique du pourrissement, c'est le fruit mûr tombé foutu de n'avoir pas été cueilli. Parce que l'homme n'avait pas prévu, voulu ou pu, connu ou su. Parce que l'homme a trop attendu, ou peut-être tout bonnement, parce qu'il l'a parfaitement voulu et eu. Si tant est que c'est l'homme qui veut. La logique du pourrissement, c'est l'écorchure qui s'infecte, c'est le microbe qui se délecte quand se rengorge le furoncle. C'est la fissure qui rigole et la rigole qui se fend la gueule. C'est la chaussure qui prend l'eau, c'est la peinture qui s'écaille. La moisissure prend ses ailes.
La logique du pourrissement, c'est la chemise qui se fait la malle. La redingote qui est en crise d'avoir été par trop portée, souillée, lavée et empesée. Et la couture n'en peut plus, la triserie de la reprise. Un petit point de chaîne à droite, un petit point de croix à gauche, un petit point arrière devant, un petit point devant derrière. La logique du pourrissement, c'est la centrale qui pisse la mort et la rivière qui a mal au froid. C'est la crevette qui rend l'âme et l'arbre à pain qui a le blues. C'est l'eau de coco en berlingot, c'est pour bientôt je vous le dis. C'est la corde de la mer igname qui étrangle la mer igname même.
La logique du pourrissement, c'est quand débarquent les macros avec leurs mines de sex shop. On vend du sable au marché blanc pour poser un mal de mélanine. Et quand nos plages sont le trottoir sous leur licence de maison close, nos enfants nus ne peuvent plus leur faire l'amour au grand soleil. La logique du pourrissement, ce sont les arbres qui s'emmurent dans une névrose de béton. Les oiseaux glissent à la dérive, les flics engraissent leurs papillons. Les PV jouent aux feuilles mortes, les voitures valsent à l'appel. La fourrière rêve de cimetière, la chaussée souffre de corps aux pieds. La ville a mal aux entournures.
La logique du pourrissement, c'est le bébé qu'on sait payer dans la boutique du père Freddy. Il fait la loi dans la maison, il fait caca ou beau lui chante, même dans le crâne des petits. On ne se parle plus quand il jacasse, on ne s'entend plus quand on se parle. Avec sa tête rectangulaire, c'est le portrait de son papa. Il a la bouche en sucre d'orge, il fait risette et c'est tout rose. Il a les yeux bardés de guerre et injectés d'apocalypse. Il passe pourtant de temps en temps un oiseau bleu en son iris.
C'est quand s'encombre le sinus que la conserve en a ras-le-bol. Le fer blanc gonfle puis se mouche et les décombres qui s'amoncellent ont des dégaines de gratte-ciel. Tel un grand rire au bord de gouffre, un matouba d'éclat de gorge. Et comme un corps mourant blessé, le rire s'élance en vol plané et fouille une gueule de volcan pour assouvir sa démesure. C'est un destin que l'on marchande dans un pays qui marche à l'os. Une terre du sud qui perd son or, un champ d'amour qu'on hypothèque. Ce sont deux sœurs qui se déchirent dans un asile à ciel ouvert. L'espoir trimballe au bout de poisse, la lune rumine ses angoisses. Les mots ont l'éléphant qui assiste, la rhétorique traîne la jambe. Et la psy se fait son beurre quand les neurones se font de la bile. On vend de la foi à tour de bras et les gourous ont le bras long. On brade la joie.